Il est 12h à Kinshasa, 13h à Goma.
Radio Kapi.
Des informations avec Jacques-Yves Molima.
Reprise normale du trafic au poste frontalier de Kasumbalesa ce jeudi, et ce après une journée agitée hier. Les chauffeurs zambiens accusaient les autorités congolaises de ne pas assurer leur sécurité. Une discussion entre le vice-gouverneur du Haut-Katanga et les officiels zambiens a permis de décompter la situation. Campagne de sensibilisation sur la scolarisation des enfants, filles et garçons. Le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique a lancé cette campagne hier à Kongolo dans la province du Tanganyika où plusieurs enfants n'ont pas repris le chemin de l'école. Notre invité dans cette édition du journal, c'est Gérard Bissambou, membre de la plénière de la Commission électorale nationale indépendante. Il dresse le bilan de ce que la CENI a déjà réalisé concernant le processus électoral, notamment l'élaboration de la cartographie électorale bouclée et ce qui reste à faire. Voilà tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonjour. Le trafic a repris normalement ce jeudi matin au poste frontalier de Kasumbalesa après une journée agitée. Les chauffeurs zambiens accusent les autorités congolaises de ne pas assurer leur sécurité. Le vice-gouverneur du Haut-Katanga s'est rendu en Zambie pour discuter de ces problèmes avec les officiels zambiens, ce qui a permis de décanter la situation. D'autres détails avec Jean Gandou.
Ce jeudi, la frontière est réouverte. Les petits commerçants transfrontaliers sont de nouveau visibles dans les couloirs piétonniers, se dirigent les uns en Zambie, les autres en reviennent avec toutes sortes de marchandises. La vie a donc repris son cours normal, à la grande satisfaction de ces derniers, car ce mercredi, ils se sont vus refuser l'accès en Zambie par des transporteurs des grands camions de la Zambie, et la frontière est restée fermée toute la journée. Pour les chauffeurs en colère, la RDC n'assure pas leur sécurité. Et par moments, on a assisté à des jets de pierres entre les manifestants et les Congolais, qui voulaient coûte que coûte et rendre en Zambie. La police zambienne est même intervenue en faisant usage des gaz lacrymogènes. Une délégation dirigée par le vice-gouverneur du Haut-Katanga s'est rendue en Zambie et a pris langue avec les autorités de ce pays, conduite par le ministre de la Défense, pour trouver des solutions à ces problèmes. À l'issue de la rencontre, quelques résolutions ont été prises, à savoir la reprise du trafic dès ce jeudi en accordant priorité aux camions en stationnement du côté Zambie, le renforcement de mesures de sécurité par les autorités congolaises qui ont à cette occasion communiqué aux représentants des chauffeurs de la SADC le numéro vert à utiliser en cas de besoin une fois sur le sol congolais. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Au Congo central, le ministre provincial de l'économie déclare la guerre aux expatriés qui vendent en détail au détriment des petits commerçants nationaux. Après avoir reçu plusieurs doléances des commerçants détaillants, le ministre provincial a tenu hier une réunion d'harmonisation des vues avec la Fédération des entreprises du Congo et à la Corporation des petites et moyennes entreprises, COPEMECO en sigle, deux structures où les commerçants expatriés sont affiliés. Dans cette rencontre, le ministre provincial de l'économie, Roger Nimi, annonce que bientôt un arrêté réglementant le commerce en gros et en détail sera signé en cette matière. L'objectif est, selon lui, de pousser les commerçants expatriés à savoir qu'ils exercent leurs activités dans un état de droit. Le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique a lancé ce mercredi à Kongolo dans le Tanganyika la campagne de sensibilisation sur la scolarisation des enfants, filles et garçons. L'enseignement primaire étant gratuit, les parents sont priés d'amener leurs enfants à l'école. D'après les responsables de l'enseignement à Kongolo, plusieurs enfants n'ont pas repris le chemin de l'école. Paul Mounanga.
D'après certaines sources, dans les territoires du Kongolo, la campagne se fera à travers les voies des ondes et des messages qui seront lancés régulièrement dans des rues et avenues de Kongolo. Pour les sous-directeurs de la province éducationnelle Kongolo 1, jusqu'à ce jour, après la rentrée scolaire, plusieurs enfants traînent encore en famille, d'autres accompagnent leurs parents au champ ou sont envoyés dans la rue en train de vendre arachides, beignets ou autre chose. Certains parents disent qu'ils n'ont pas les moyens pour acheter les objets classiques. Le sous-prophète souligne tout de même les difficultés auxquelles les écoles primaires sont confrontées avec cette gratuité de l'enseignement. Mwenge Bin Pungu.
Il est vrai que ce mouvement massif des enfants, suite à la guerre de Kabambare, nous ajoute encore les enfants. Ce que moi je demande d'abord au chef d'établissement, c'est d'accueillir les enfants qui viennent de l'autre côté, tout comme les enfants qui traînaient dans les familles. On doit les inscrire. Maintenant, la difficulté, c'est le pléthore que nous retrouvons dans les écoles. Ces enfants deviennent nombreux pendant que nous avons les moindres classes où les enfants doivent étudier. S'ils deviennent nombreux, nous faisons les études. Comment est-ce que nous pouvons les encadrer?
Cette campagne de sensibilisation va s'étendre sur une période de 3 mois. Kalemi Polemunanga, Radio Okapi.
Et puis le 5 octobre de chaque année, le monde entier célèbre la journée mondiale des enseignants. À cette occasion, une attention particulière a été accordée aux enseignants qui ont trouvé refuge à Bandundu-Ville, au Kwilu, fuyant les atrocités à Kwamout, au Maïndombe. Ils sont plus de 100 professionnels de la CRE déplacés, reçus dans la ville de Bandundu. Ils n'ont pas enseigné depuis la rentrée scolaire et toutes leurs écoles restent fermées à la suite de l'insécurité. Cette situation est aussi à la base de l'impayement de 2 mois de leur salaire. À Bandundu, ils vivent dans des conditions précaires. C'est le cas du préfet des études, Jacques Kawata. Irène Mbouma a fait son suivi.
Actuellement préfet des études à l'Institut Mubanzila au village Etumbananguaka dans le territoire de Kwamout au Maïndombe, Jacques Kawata est dans l'enseignement depuis 16 ans. Cependant, depuis la rentrée scolaire en cours, il ne sait plus exercer sa profession. Il a fait le déplacement à Bandundu avec son épouse et ses 5 enfants en date du 4 septembre dernier à cause des atrocités de Kwamout. D'après lui, ses activités lui manquent déjà.
Les élèves me manquent. Je suis habitué de toucher la craie chaque fois, étant qu'en enseignant des carrières, je ne suis pas à l'aise. Je le deviendrai jusqu'à ce que les activités seront reprises.
Au chef-lieu du Kwilu, Jacques Kawata habite une petite maison inachevée qui n'a pas de porte. Toute la famille passe nuit à même le sol et manque à manger. Cet enseignant des carrières, dépourvu de tout, dit ne pas être en mesure de prendre en charge sa famille.
Je suis devenu un mendiant. Tout un préfet comme moi, quand vous tendez la main, des fois ils arrivent à vous remettre même un 500 francs. Mais un père de 5 enfants et une femme. Des fois, on passe nuit comme ça sans mettre quelque chose.
D'habitude, Jacques Kawata perçoit son salaire à Massiambio, situé à 45 km de son village, mais depuis le mois d'août dernier, aucun agent payeur n'est arrivé au territoire de Kwamout. Irène Mboma, Bandundu-Ville, Radio Okapi.
Dans la province du Nord Ubangi, les populations sont confrontées à de graves inondations avec la crue actuelle de la rivière Ubangi. La situation concerne la ville de Badolité ainsi que les territoires de Mobaï Mbongo et de Yakoma. Plusieurs habitations sont sous les eaux, indiquent des témoins, obligeant plusieurs ménages à se déplacer. Cela occasionne aussi la pollution des sources d'eau par la propagation des matières fécales. Les champs sont également inondés et les habitants craignent la destruction de leurs produits. Difficile aujourd'hui de voyager sur certains tronçons routiers coupés par les eaux. Témoignage du président du cadre des concertations provinciales de la société civile du Nord Ubangi, Taylor Taïma Zalo, qui a été joint par Paul Richard Malengela.
Vous savez, nous n'avons pas de route. À l'heure où je vous parle, je suis à Yakoma, sur la route de Yakoma vers Badolité. L'eau de la rivière Ubangi qui se délie, et puis c'est un peu partout, là, même à Yakoma, en centre-ville, il y a signe d'inondation. Et tout au long de la route. Donc, je peux vous confirmer qu'il y en a à Bado, ça a commencé bien avant, même à Kambo. Oui, mais les conséquences sont, vous savez que nous avons que 6 habitations. Là, on nous attend à des maladies électriques. À part ça, le commerce devient difficile. Les gens ne vont pas se déplacer. Et puis, il n'y a même pas de médicaments dans la zone. Et donc, nous attendons à une situation catastrophique. Et surtout que ces gens qui n'auront pas les abris, ils n'ont pas de base pour se couvrir en attendant. Donc, la situation est grave. Même les champs, certains champs sont ravagés. Tout au long de la rivière, mais nous passons, tout de suite là, on va traverser par des pirogues pour atteindre l'autre rive sur la RN24. Donc c'est pour nous dire que la situation est terrible dans les coins.
La société civile sollicite l'intervention des autorités et des ONG internationales en vue d'une assistance humanitaire aux populations sinistrées dont le recensement est en cours, a indiqué Taylor Taïma. Dans la province du Maniema, le commandant de la police civile de Kindu appelle les responsables des partis politiques et ses militants de chaque fois régler leurs différends à l'interne pour ne pas troubler l'ordre public. L'appel du colonel Benoît Saïdi Madjaliwa est consécutif aux incidents qui ont eu lieu au sein de partis politiques AFDC mardi dernier où les militants voulaient le départ de leur fédéral. Colonel Benoît Saïdi Madjaliwa parle au micro de Florence Kizalunga.
La police est là pour maintenir l'ordre public. Et la police est là pour sécuriser la population. C'est pour vous dire que la police n'est pas là pour tracasser la population. La police n'est pas là pour tirer sur la même population. Non, non. Nous sommes là pour garantir et maintenir la tranquillité publique dans la ville où nous sommes. Nous demandons aux membres et aux dirigeants des partis politiques de régler leurs problèmes à l'interne. parce que ce n'est pas tout le monde qui est concerné ou tout le monde qui fait partie de leur parti politique. Et ceux qui ne sont pas concernés ont droit d'évacuer librement leurs occupations. Et c'est pourquoi nous leur demandons, dès qu'il y a un problème, qu'ils puissent régler ça vraiment à l'interne pour ne pas troubler la quiétude de notre population. Parce que les problèmes des partis politiques concernent les membres et les cadres de ces partis politiques. Et si la police est arrivée au niveau d'intervenir, c'est parce que les activités de ces partis politiques voulaient troubler la quiétude de la population. Et c'est pourquoi la police a intervenu pour remettre de l'ordre.
Autre nouvelle, ce 6 octobre, c'est la journée mondiale de paralysie cérébrale. Les professionnels de santé expliquent cette maladie par une complication sur les 12 nerfs moteurs autour du cerveau qui est comme le centre de commande de tous les systèmes nerveux du corps humain. De ce fait, le médecin directeur de la clinique Dieu est grand et béni a saisi l'occasion pour lancer certains conseils préventifs pratiques à toute la population. Le docteur Baba Mutuza est au micro de Marc Marofimbo.
La première chose, comme j'ai dit ici, on en parle presque tous les jours, l'automédication. L'enfant qui fait la fièvre 1, 2, 3 jours, on ne le garde pas à la maison. Ça, c'est un. De deux, il y a aussi la façon de vivre. Un mode de vie sain. Il faut manger équilibré. En protéines, en lipides et en protides. En vitamines aussi. Mais à côté de cela, il faut éviter des graisses. Il faut éviter beaucoup de sucreries. Il faut éviter la sédentarité. Les gens qui peuvent plus faire ne fût-ce que 10 mètres à pied pour aller au travail, revenir, du 1er au 31, on est en véhicule. Ça, il faut éviter. Il faudra aussi éviter les excès du tabac et de l'alcool, par exemple. Avoir le temps de se relaxer, c'est-à-dire éviter le stress. À côté de ça, ce qu'il faut faire, en réalité, avoir des renseignements sur ses parents. Est-ce qu'ils avaient présenté telle ou telle autre pathologie? Si oui, commencer les soins tôt. Et mal chez nous, c'est que nous rendons à l'hôpital quand nous sommes déjà en phase de complications. C'est pas ça la bonne médecine. La bonne médecine, c'est la médecine préventive. Faire des check-ins réguliers pour détecter très tôt les phénomènes morbides et les combattre très tôt afin de ne pas tomber dans les séquelles. C'est ça la prévention primaire.
Actualité internationale.
Au Rwanda, 3 journalistes de la web TV Iwaku ont été acquittés mercredi 5 octobre après 4 années de détention. Les 3 journalistes Damasène Mutuimana, Shadrach Niyosenga et Jean-Baptiste Chimiima avaient été arrêtés en octobre 2018 et poursuivis pour incitation à l'insurrection et diffusion de fausses informations. Et puis en Guinée, le procès du massacre du stade de Conakry renvoyé au 10 octobre prochain, le président veut donner du temps au tribunal pour examiner les nombreuses exceptions soulevées par la défense qui conteste toute une partie de la procédure, notamment la détention du capitaine Moussa Dadis Camara, président de la junte au moment des faits, et accusé pour complicité de meurtre, viol en masse, torture, coups et blessures volontaires et séquestration, entre autres.
L'invité.
Notre invité dans cette édition du journal, c'est Gérard Bissambou, membre de la plénière de la Commission électorale nationale indépendante, CENI. Il dresse le bilan de ce que la CENI a déjà réalisé concernant le processus électoral, notamment l'élaboration de la cartographie électorale bouclée, ce qui reste à faire, tel l'enrôlement des électeurs dès le mois de décembre prochain. Gérard Bissambou s'entretient ici avec Jeff Fungoy. Suivez.
Gérard Bissambou, bonjour.
Bonjour.
Où est-ce que vous en êtes au niveau de la CENI avec les préparatifs pour les élections?
Pour tous ceux qui suivent la feuille de route que nous avions publiée le 3 février 2022, ils devront noter que maintenant nous sommes en train de préparer la deuxième grande opération, surtout préélectorale. Nous avons, après tous les préparatifs, nous avons bouclé l'opération de la cartographie. Les données ont été collectées, centralisées et les différents centres d'inscription sont déjà connus. Donc la cartographie est bien bouclée. Mais maintenant, nous sommes en train de préparer le lancement de la grande opération d'identification et enrôlement des électeurs. Cette opération, c'est celle-là qui va nous conduire à l'une des grandes opérations, celle avant cela donc la législation des sièges, donc la loi sur la répartition des sièges qui devra être actualisée sur base du nombre d'électeurs, et après nous passerons à la grande opération de l'enregistrement des candidatures et finalement ça va être les scrutins. Alors, en ce qui concerne l'enrôlement des électeurs, vous avez suivi que la CENI avait lancé un marché pour l'acquisition des kits et nous avions attribué le marché à Miru System, qui est une entreprise sud-coréenne qui pour le moment est déjà en train de produire les kits.
Mais la cartographie dont vous parlez, vous venez déjà de terminer. on peut la voir où, la cartographie physique? Est-ce qu'elle est visible même sur le site de la CENI?
Je crois que la cartographie a été finalisée, une décision de l'Assemblée plénière avait déjà été prise, et c'est le président de la CENI, son Excellence Denis Kadima Kazadi, qui est habilité à publier cette décision. Quand la décision sera publiée, les gens en seront...
On revient aux machines que vous avez commandées, dont vous êtes maintenant à l'étape expérimentale, vous louez leur performance, elles ont une imprimante incorporée avec un système solaire bien assuré, donc en cas de coupure d'électricité, l'autonomie de toutes ces machines
l'autonomie est très bien assurée, il y a une autonomie de plus de 7 heures, il faut le dire. Ça veut dire qu'évidemment, à côté, il y a un générateur pour alimenter au cas où il y a un problème. Mais déjà avec ces machines, l'autonomie est rassurée pour toute la journée, de telle sorte qu'on ne puisse pas avoir ce problème de coupure parce que évidemment le générateur n'a pas alimenté là où effectivement il faut utiliser cela ou parce... Non, de ce côté-là, c'est OK, mais toutes ces options-là...
À cette allure, les choses doivent aller trop vite. Pourquoi l'enrôlement des électeurs doit prendre beaucoup de temps? J'ai appris que ça sera au mois de décembre, ça peut aller à 2 mois en province. À cette allure, on peut en finir avec l'enrôlement au-delà du mois de février.
Non, oui, mais écoutez, si nous nous référons à l'expérience, à l'histoire de nos élections, de la révision du fichier électoral, en 2004, on a fait aussi le pré-test des machines, mais 2004-2006, l'enrôlement a fait pratiquement 3 mois par province. Et il faudra noter qu'il y a des provinces qui ont fait moins de 3 mois parce qu'on devait tenir autant. En 2016-2017, c'était aussi 3 mois. Et vous prenez en 2009-2010, moi j'ai eu à superviser la sensibilisation pour la révision du fichier électoral ici à Kinshasa, c'était 3 mois. Mais cette fois, la CENI est en train de penser à proposer 2 mois d'enrôlement par province. Mais ce qui a d'avantageux, c'est quoi? Nous n'allons plus faire face à cette tâche assez ardue et parfois où il y a plusieurs ratés, ce qui retarde d'ailleurs l'opération de déplacement des machines d'une province à une autre. Dans la commande que la CENI a eu à passer, au moins chaque province a son nombre de machines au prorata du nombre de centres d'inscription électorale, outre qu'il y a des machines de réserve qu'il faudra avoir, étant donné qu'il y a certains problèmes qui pourraient arriver et qu'il faudra résoudre.
Vous êtes en train d'exécuter une feuille de route sans un calendrier électoral, sans le budget, jusqu'à quand le calendrier électoral qui montre au moins les opérations d'une manière chronométrée? À moins d'une année, on va avoir ce calendrier qui risque d'être vidé de son contenu, puisqu'il y a déjà une feuille de route. Et quel est le budget des élections?
Je commence par la deuxième question, là, par rapport au budget. Jusque là, quand la CENI dirigée par Excellence Denis Kadima, notre équipe, nous sommes entrés, d'abord il faudra dire que nous sommes entrés avec 28 mois de retard, hein, alors que le cycle électoral commençait déjà en 2019, mais nous, c'est après 28 mois que nous avons pris possession de notre responsabilité, de nos attributions. Alors, nous avons trouvé un budget qui avait déjà été discuté et qui était adopté par l'Assemblée nationale. Donc, ce budget avait été en fait élaboré, proposé par l'équipe qui nous a possédé, l'équipe de son Excellence le président honoraire Corneille Nangaa. Et donc, c'est le budget que nous avons exécuté et que nous continuons à exécuter avec le gouvernement pour 2022. Ça, en tout cas, il ne faut pas que les gens se demandent quel est le budget. Ils n'ont qu'à voir dans la loi des finances. Le budget est là. C'est le budget qui avait été proposé et adopté, proposé par l'équipe Excellence honoraire président et président honoraire Corneille Nangaa et adopté par l'Assemblée nationale. Alors, pour le moment, nous avons déjà fait une proposition du budget, mais qu'ils attendent. Ici, c'est la session budgétaire qui a déjà commencé. Nous allons voir qu'est-ce que l'Assemblée nationale va décider et quel est le budget qui sera accordé à la CENI. Et je crois que ça va être à la portée de tout le monde, au vu aussi de tout le monde, étant donné que la loi des finances est toujours, la loi financière est toujours publiée. Donc là, il n'y a pas de problème. Par rapport au calendrier, je crois qu'il faut d'abord faire une différence entre feuille de route et calendrier. La feuille de route donne les opérations en les périodisant. Donc nous avons une feuille de route qui existe, qui libelle toutes les opérations suivant des périodes auxquelles elles sont assignées. Et nous ne faisons que suivre cette feuille de route. Lorsque on va publier le calendrier, vous verrez qu'il n'y aura pas de différence entre la feuille de route et le calendrier. Peut-être quelques petits ajustements.
Je vous remercie.
Merci beaucoup.
Voilà, c'est la fin de cette édition mise en onde par Mimi Kindou, coordonnée par Jean-Désiré Kanyama sous la supervision de Ben Kabamba. Était à la présentation Jacques-Yves Molima. Merci de nous avoir suivis.